Qu'est-ce qui se passe là ici?
Ben, ici, c'est le magasin où je travaille, hein, le Monoprix d'ici les Monoprix Gambetta. On va parler de la réforme des retraites, mais on va le faire un petit peu à l'abri dans notre local pour pas qu'on soit perturbé et pour pas être mal vu, quoi.
C'est illégal.
Voilà. De toutes les façons, il n'y a pas de crime.
Ça y est, on y est. C'est l'heure de la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Manifs, blocages, grèves vont rythmer les prochains jours, voire peut-être les prochaines semaines. La mobilisation de 1995 est dans toutes les têtes. Le pays avait été paralysé pendant 3 semaines contre le plan Juppé. 6 millions de grévistes, des millions de manifestants avaient finalement sonné le glas de la réforme des retraites ainsi que du gouvernement Juppé. Alors, en 2023, bis repetita, beaucoup l'espèrent, notamment les salariés de la deuxième ligne. Vous vous souvenez d'eux ? Pendant la crise du Covid, 4,6 millions de salariés du secteur privé continuaient d'apporter à la population les services indispensables à la vie quotidienne. Malgré le risque de contamination, ces petites mains essentielles ont notamment porté et mis en rayon des tonnes et des tonnes de produits alimentaires. On s'est demandé ce qu'ils pensent de la réforme des retraites, sachant que, bien souvent, ces salariés sont exposés à la pénibilité du travail. On est avec Rodrigue, salarié du Monoprix Gambetta à Issy-les-Moulineaux.
Bon, Rodrigue, c'est bon. Alors, on est passé du grand magasin Monoprix à la remise, là.
Exactement.
C'est notre tout cas, petit. C'est notre QG, oui. Ouais, c'est petit local CGT.
Oui, oui, oui.
La CGT Gambetta.
Exactement, exactement. C'est d'où part, en fait, toute la stratégie de lutte hein, que nous menons depuis plusieurs années aujourd'hui hein, contre les dérives patronales du groupe Casino envers les salariés de Monoprix.
Ici, c'est la rampe de lancement de ce que vous appelez les samedis de la colère.
Exactement.
C'est quoi ça, ces samedis de la colère?
Alors, les samedis de la colère, c'est de là que part la mayonnaise pour faire la lutte, en fait, tu vois. Les samedis de la colère visaient à alerter la clientèle et démontrer à nos patrons que nous n'allons pas les laisser faire ce qu'ils veulent avec notre pouvoir d'achat et nos conditions de travail.
Et ça se traduit comment, ces samedis de la colère? Vous faites quoi?
On fait des distributions de tracts. On cible les magasins et on va faire des distributions.
Ah, donc chasuble rouge CGT,
exactement,
les mains pleines de tracts.
Pleines de tracts, on distribue. Ouais. Et fort heureusement, quand même, on a un bon retour de la clientèle parce que ils se sentent concernés par la problématique. Vu, par exemple, la prolifération des caisses automatiques qui ne satisfait pas la clientèle. Surtout, notamment dans les magasins où il y a beaucoup de personnes quand même d'un certain âge qui ont besoin de contact humain. Eh ben, ils sentent vraiment que c'est une problématique qui les concerne aussi, tu vois.
Toi, Rodrigue, ici, t'es salarié?
Oui, je suis salarié ici.
Quel type de contrat?
Ben, j'ai un CDI, CDI 35 heures, je m'occupe de la cave à vin. Et bien sûr, dans le cadre de la réduction des effectifs, on m'a attribué un deuxième rayon.
Le fromage?
Non, ça aurait été bien plus que ça, ça va ensemble. Mais non, c'est le rayon chips. Parce que dans la plupart des cas, vu que ceux qui partent ne sont pas remplacés, eh ben, la plupart des salariés de Monoprix ont un deuxième rayon à prendre.
Pour le même salaire?
Pour le même salaire,
combien?
Naturellement. 1300 euros environ, en net. Ouais.
Ça, c'est hors prime?
Hors prime, oui. Les primes ne représentent pratiquement plus rien à Monoprix.
Et t'as combien d'ancienneté?
Alors, ça va faire 6 ans que je travaille.
Et t'as quel âge?
J'ai 46 ans.
Et le travail, c'est les rayons, c'est donc tu recharges les rayons?
Oui, on a un petit travail administratif à faire, puisqu'on fait quand même de la gestion des stocks jusqu'à un certain seuil. Et bien sûr, on fait ce qu'on appelle dans le métier du réassort, c'est-à-dire qu'on charge les rayons. Et bien sûr, on veille à faire en sorte que le rayon soit présentable avant ouverture. C'est à peu près le gros de ce qu'on a à faire.
Et toi, pendant le premier confinement,
oui,
t'as travaillé?
Ah oui, j'ai travaillé. C'était quand même quelque chose parce que vu les circonstances qu'il y avait pendant la période Covid, si tu te souviens, avec les transports et autres, on devait travailler à des heures où la clientèle est moins nombreuse. Donc, je venais bien plus tôt, à cette époque-là.
Pour éviter les contaminations.
Pour éviter les contaminations, je venais, on commençait ici, si mes souvenirs sont bons, à 4h, 4h30 parfois, ou 5h, je sais plus.
Du matin?
Du matin. Et je me réveillais à 3h du matin.
Mais à cette heure-ci, il n'y a pas de transport, donc Monoprix de payer le taxi.
Non, rien du tout. Non, les bus de nuit. Voilà.
Donc toi, tu faisais partie de ce qu'on appelle la deuxième ligne, les essentiels.
Exactement. Et sans nous, sans ces petites mains-là, le pays ne vit pas.
Toi, Rodrigue, si je te dis, t'es un ouvrier, t'es d'accord ?
Oui, bien sûr que je suis d'accord. Je suis un ouvrier. Je suis un ouvrier qui trime pour boucler ses fins de mois, mais qui fait son travail quand même avec passion, parce que j'aime quand même ce que je fais, parce que c'est quand même d'utilité publique.
Je ne sais pas si tu es au courant du chiffre. L'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier, aujourd'hui en France, c'est 64 ans.
Ouais,
le chiffre choisi par le gouvernement pour la réforme de la retraite.
Oui,
64 ans en bonne santé pour un ouvrier. Toi, 64 ans.
64 ans. Si je continue à faire ce boulot-là, je serai un grabataire. Je marcherai avec une canne. Je serai pas capable de tirer une palette. Je serai pas capable de faire de la mise en rayon, de monter sur un escabeau. Je pourrais pas. Je pourrais profiter de rien. Je serai à la maison, mal au dos, le corps complètement ratatiné parce que toute la vie j'aurais trimé dans les transports, dans le stress, avec les charges lourdes. Donc forcément, je profiterai de rien. Je serai soit un légume à la maison, soit à l'hôpital.
Bah du coup, comment tu le vis ce décalage entre vous êtes des essentiels, la deuxième ligne, à maintenant cette réforme des retraites qui n'est pas un cadeau pour toi, pour les ouvriers, quoi.
En réalité, je me dis que pour eux, on est des machines à sous. On doit produire jusqu'à extinction. Ils le savent, ils savent très bien qu'on ne tiendra pas jusqu'à cet âge-là. Ils veulent qu'on produise jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Comme ça, dès qu'on finit de travailler, c'est le tombeau qui nous attend. Et on n'est plus une charge pour l'État. Point.
Ces salariés de la deuxième ligne sont des salariés dits « modestes », pour ne pas dire précaires. Selon l'INSEE, ces travailleurs modestes, qui gagnent en moyenne 1215 euros par mois, ont beaucoup plus de risques d'avoir une retraite courte, moins de 10 ans, voire même moins de 5 ans. Par ailleurs, ils sont deux fois plus souvent en CDD ou en intérim et ils connaissent plus souvent le chômage. Et quand ils sont en CDI, ils ont peu d'opportunités d'évolution de carrière. Du coup, l'usure professionnelle finit par travailler leur corps. On en parle avec un médecin du travail.
C'est moi.
Vous allez bien ?
Ça va.
Docteur Jean-Michel Sterdignac. Médecin du travail, et vous êtes aussi secrétaire général du syndicat national des professionnels de la santé au travail. J'ai vu que vous, notamment, vous dites que on voit de plus en plus de travailleurs de plus de 60 ans en activité, mais, il faut souligner la difficulté à maintenir dans l'emploi des plus de 55 ans qui ont des activités physiques.
Oui, c'est-à-dire que le constat qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, on voit davantage de gens de plus de 60 ans. Quand, il y a 15 ans, par exemple, je travaillais à Pierrefitte, j'avais regardé un petit peu les salariés que je recevais, j'en avais quasiment aucun de plus de 55 ans. C'est dingue, hein ? Alors que maintenant, il y en a. D'abord, justement, parce qu'on pousse les gens, on les oblige à travailler plus longtemps. Hein. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était 37 ans et demi. Là, on va arriver à 43 ans. Donc, les personnes, de fait, sont obligées de travailler plus longtemps. Donc, on va avoir affaire à des gens qui doivent travailler plus longtemps, donc plus âgés, avec déjà, chaque année qui se rajoute, c'est une année d'usure professionnelle supplémentaire. Là, ce matin, j'ai vu une dame qui est aide-soignante dans un institut. Elle a des problèmes de santé. Elle a été en arrêt maladie. Elle a 58 ans. Elle reprend à temps partiel thérapeutique, à mi-temps. Mais qu'est-ce qu'elle va faire après ? Elle aura vraiment beaucoup de mal à supporter un poste de travail où il y a de la manutention, où il y a des contraintes posturales. Ça fait partie pourtant de son métier. Donc, que faire pour aider cette personne à, on va dire, à aller jusqu'à l'âge de la retraite avec un niveau de vie suffisant. Alors bon, elle, je pense qu'elle a de la chance parce que elle aura quand même la retraite à taux plein, elle aura ses deux trimestres. Mais voyez, c'est pas évident. Surtout que quoi qu'on puisse dire, ces histoires de formation, ça marche pas non plus. Vous allez pas demander à une personne de 58 ans d'aller faire une formation pour travailler 2 ans, par exemple. Donc voilà, on est confronté de façon régulière à cette problématique de maintenir dans un emploi des personnes qui ont plus de 50 ans, je dirais même, et qui ont des difficultés physiques, notamment dans le travail des gens qui sont qui travaillent sur les chantiers ou qui travaillent dans le médical, dans le médico-social, avec notamment un grand nombre de personnes, par exemple, qui travaillent dans le secteur des soins à domicile ou des EHPAD, où c'est quand même, on va dire, la situation, je ne veux pas dire catastrophique, parce que le mot est galvaudé, mais pas loin, quoi.
Et on repousse la retraite jusqu'à ce que l'on soit obsolète. Qu'une colle du fémur se pète, c'est bête, c'est bête, on est les seuls à prendre perpète.
Qu'est-ce que c'est traiter la pénibilité?
Marc Ferracci, député Renaissance.
Je suis obligé de dire que...
9 janvier 2023.
Pour des gens qui ont des travaux difficiles, je veux simplement dire, parce que j'observe et je discute aussi avec les gens, que les choses évoluent. Un quart l'heure, aujourd'hui, il a accès à des protections pour ses genoux qu'il n'avait pas il y a 15 ans ou 20 ans et qui lui permettent
d'éviter... Il reste quand même accroupi toute la journée.
Oui, c'est vrai, mais il a des pathologies qui sont moins fortes aujourd'hui. Il faut quand même le dire.
Moi, mon voisin à l'époque dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « je n'en peux plus ».
François Patria.
Je ne peux plus monter sur les toits comme ça.
Sénateur LREM.
Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même.
12 décembre 2022.
Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés de exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même.
Dominique ?
Oui, c'est moi.
Ok. Toi, Dominique, tu es CGT ?
CGT, tout à fait, oui.
Tu as quel âge ?
Moi, j'ai 46 ans.
46 ans, et ici, à ce Monoprix Le Courbe, dans le 15e arrondissement de Paris, tu y travailles depuis combien de temps ?
22 ans. J'ai commencé par Prise Unique, après c'est venu Monoprix, oui, ça fait 22 ans, oui.
Ton salaire ici, après plus de 20 ans de maison ?
1300, 1400, ça dépend.
Net ?
Oui, net, oui.
Après plus de 20 ans ?
Ah, oui, après plus de 20 ans, oui, tout à fait.
Et 35 heures ?
35 heures, oui, c'est ça.
Et tu faisais quoi avant de venir ici à Prise Unique qui est devenu Monoprix ?
J'étais en Guadeloupe avant, je travaillais les vacances à Prise Unique, parce qu'il y avait Prise Unique là-bas, je travaillais comme ça. Et après, j'ai fait des études de commerce, alors ça me plaisait. Et quand je suis arrivé en France, ben, j'ai trouvé ce travail, j'ai pris.
En métropole ?
En métropole, oui, tout à fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. C'était une très bonne équipe, c'était un très bon environnement. On n'avait pas ces problèmes de pénibilité. On était trop... C'était convivial, c'était familial au début. Mais maintenant, ça commence à dégrader de fur et à mesure. Voir qu'on doit travailler beaucoup, on nous demande encore plus que d'habitude.
C'est quoi ton travail ici quand tu arrives ?
Ben, mon travail ici, c'est de monter les palettes, remplir les rayons.
Monter les palettes ? Avec le tire-palette, d'accord.
Le tire-palette, c'est dans les chambres froides. Après, on monte la palette, on doit dépoter, remettre en rayon, faire les dates. 24 sur 24, debout. On n'arrête pas de piétiner. Il y a des positions à faire, il y a des positions à ne pas faire.
Ouais, ce qu'ils appellent l'ergonomie.
Tout à fait, c'est ça, quoi. Mais vous savez, des fois, elle est tellement captée sous le boulot qu'on oublie déjà les gestes, comment faire ou tout ça, parce qu'on veut aller faire vite, on veut bien faire pour que la clientèle arrive, qu'ils trouvent un rayon bien propre, achalandé pour eux.
Parce que toi, dans ce magasin, Dominique, tu n'es jamais à la caisse.
Ah non, du tout, je ne suis pas à la caisse, je suis qu'en rayon. Je ne fais que le rayon, c'est tout.
Ouais,
le rayon
physique.
C'est du physique, oui. Rayon charcuterie, c'est du physique, oui.
Les séquelles sur ton corps, c'est quoi ?
J'ai des courbatures, j'ai mal au genou. Et des fois, j'ai des tendinites, des fois, j'ai mal au bras à force de faire le même mouvement. C'est ça qui...
La répétition.
La répétition, mais les gens ne voient pas ça. C'est vrai que physiquement, on me voit bien là, mais dans le corps subit les conséquences de toute la vie, quoi. Parce que le fait de se lever à 4 heures du matin, prendre le transport à 5 heures, et des fois, il n'y a pas de transport, il faut courir à droite, à gauche pour récupérer un transport.
Attends, Dominique, tu te réveilles à quelle heure ? 4 heures ?
Je me réveille à 4 heures, je pars de chez moi à 5 heures, et pour arriver au travail à 6 heures. Mais c'est pour vous dire comme quoi que, comme on aime son boulot, on ne regarde pas le temps de trajet, on ne regarde pas, mais le problème qui se pose, un moment, notre corps est fatigué, on ne peut plus. Mais nous sommes obligés de travailler. Vous savez très bien, si on ne paye pas le loyer, on va se mettre à la rue. Faut, quand on a des enfants, il faut nourrir les enfants. J'ai deux enfants, il faut l'école, l'électricité, le gaz, il y a tout à payer, quoi. Il faut faire avec le strict minimum qu'on a, quoi.
T'es toujours avec le papa des enfants ?
Non, je suis pas avec.
Ah, donc tu es femme seule, voilà, avec deux enfants ?
Deux enfants, voilà.
Et tes enfants, ils ont quel âge ?
Eh ben, le plus grand, il a 20 ans, et le deuxième, il a 9 ans.
Donc c'est le grand qui s'occupe du petit tous les matins ?
Non. Il est autonome. Heureusement que
le petit 9 ans, il est autonome. Il se réveille tout seul.
Il se réveille tout seul. Je l'appelle à 7h30. Il répond au téléphone. Il me dit, maman, je me suis réveillée. J'ai dit, tu as fait ça. Tu te douches, tu prends le petit déjeuner et après tu pars.
À l'école.
À l'école, on n'a pas le choix parce que moi, j'ai pas de la famille ici. Toute ma famille est aux Antilles. Alors, je suis obligée de faire en sorte que mon fils soit plus autonome qu'autre chose. On n'a pas le choix.
Et là, avec cette réforme des retraites, normalement, la réforme, c'est 64 ans, l'âge de départ légal. Tu seras dans quel état à 64 ans ? T'y penses ?
Ah mon Dieu, j'y pense. Mais déjà, je me demande, est-ce que même je pourrais arriver jusqu'à 64 ans ? Les gens qui disent 64 ans, ils ne sont pas avec nous. Ils ne savent pas comment ça se passe dans les magasins. Ils ne savent pas comment ça se passe autre part. C'est s'ils faisaient ça pendant une semaine, 15 jours, peut-être qu'ils auraient compris notre souffrance. Peut-être qu'ils auraient dit, c'est vrai, 60 ans.
Tu ne te vois pas à 64 ans avec le tire-palette, faire les rayons?
Non, je serais...
À genoux, en haut, sur la pointe des pieds?
Du tout, je ne me vois pas à 64 ans faire ça, quoi. Je pense qu'il faudrait faire autre chose que mettre manutentiaire.
Peut-être qu'il y aurait des évolutions possibles. Est-ce qu'ici, à Monoprix, on pourrait avoir la possibilité que quelqu'un vienne te voir et dise « Bon, Dominique, tu vas passer à un autre poste ».
Non, notre poste, il n'y a pas d'autre poste. Dans les commerces, il n'y a pas d'autre poste. Et soit qu'ils vont dire aller voir la médecine du travail pour dire comme quoi que vous avez des problèmes de santé, pour faire...
Une invalidité.
Voilà, une invalidité, mais c'est pas...
Ah, non. Ce serait ça la solution, de passer en invalidité.
C'est ça. J'ai l'impression comme quoi qu'ils veulent une révolution dans le pays. Parce qu'ils ne prennent pas en considération les ouvriers. Nous sommes mal vus. Nous sommes déjà mal vus. Nous sommes... Surtout mal payés parce que vous avez vu le 440, ils sont bien, ils sont riches.
Ah, il y a eu des dividendes incroyables, des milliards redistribués.
Oui, tout à fait. Et nous, on a quoi ? On n'a rien ?
La mesure emblématique du projet gouvernemental, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Le gouvernement Borne veut le faire passer de 62 à 64 ans. Ça, tout le monde l'a compris. Mais un autre volet attire moins l'attention. Cette réforme des retraites ne prévoit pas de réintégrer 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés en 2018, à savoir les postures, les charges lourdes, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques. Les syndicats CFDT, FO, CGT réclamaient leur réintégration dans le calcul des pensions, mais pour Elisabeth Borne, c'est non. Et elle propose... autre chose.
Sur les facteurs de pénibilité que vous mentionnez, on les prend en compte. Ils sont pris en compte, par exemple, la situation du déménageur qui porte des charges lourdes, celui qui travaille avec un marteau-piqueur, on les prend en compte. Vraiment, moi, mon objectif, c'est que les salariés n'arrivent pas cassés à la retraite et qu'on puisse investir massivement dans la prévention de l'usure professionnelle. C'est pour ça qu'on crée un fonds d'1 milliard d'euros qui permettra d'aménager les postes de travail, voilà, d'avoir des choses plus ergonomiques et qu'on veut vraiment prévenir la pénibilité.
Pour l'exécutif, le maître mot pour lutter contre la pénibilité, c'est donc la prévention. En clair, encore des aides aux entreprises, mais rien de contraignant pour réduire la pénibilité. On retrouve Jean-Michel Sterdignac, notre médecin du travail.
À écouter le gouvernement, à écouter Madame Borne et les ministres, on a l'impression que la pénibilité du travail, c'est une fatalité. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, oui, aujourd'hui, on va prendre des mesures pour les retraites, on va permettre aux gens qui ont une carrière pénible de partir plus tôt. Non, on se projette dans l'avenir où prétendument le régime de retraite est en déficit. On va vous dire, on va faire un système pour que les gens qui ont un travail pénible partent plus tôt, mais attention, il ne faut pas en mettre de trop. Moi, je trouve que cette façon de raisonner est choquante, parce que si on veut que les gens partent à la retraite, même à 62 ans, il faut que les conditions de travail le permettent. Donc, C'est le même problème que les inaptitudes médicales. Si on veut éviter ce genre de problème, il faut bien que les pouvoirs publics s'attellent à une tâche essentielle qui est d'imposer aux employeurs une amélioration significative des conditions de travail. Alors, naïvement, je pensais que le syndicat dont je fais partie était un des rares à raisonner comme ça, mais pas du tout, puisqu'il y a eu un rapport récent de la Cour des comptes qui dit exactement la même chose, qui dit que si on veut prévenir la désinsertion professionnelle, si on veut que la santé au travail soit meilleure, il faut que les pouvoirs publics mènent une politique d'incitation financière, mais que ça s'accompagne de contrôles et de sanctions. Et on n'aurait pas besoin de se battre sur les critères de pénibilité. Le code du travail, c'est pas vu, pas pris. Donc aujourd'hui, il y a un terrible laxisme globalement sur la question de la santé au travail. Et par exemple, sur les EHPAD au Canada, tout est mécanisé. On fait en sorte que les gens n'aient plus à porter. Il y a d'autres pays, par exemple, puisqu'on prend toujours en exemple les pays scandinaves, eux, ils ont compris que si on voulait que les gens puissent travailler plus longtemps et en bonne santé, il fallait prendre le taureau par les cornes et améliorer les conditions de travail. Donc c'est possible, seulement il n'y a pas de volonté.
Alors après, il faut faire attention à une chose. La lutte contre la pénibilité peut en même temps, j'ai envie de dire, comme le chef de l'État, peut en même temps s'accompagner d'un discours qui dit « bah voyez, c'est moins pénible, donc allez, ils peuvent travailler beaucoup plus longtemps ».
On peut dire ça, mais encore une fois, aujourd'hui, on n'arrive même pas à amener les gens en bonne santé, enfin, notamment les manuels. On n'arrive pas à les amener à 62 ans, on n'arrive pas à les amener à 60 ans.
En bonne santé.
En bonne santé, même quelquefois, ils sont au chômage. Hein. Vous savez bien que quand les gens en France arrivent à l'âge de la retraite globalement, il y en a déjà un tiers qui sont hors emploi. C'est-à-dire, ils sont au chômage, ils sont en invalidité, ou ils sont au RSA, mais ils ne travaillent déjà plus. Alors, la réforme est quand même assez violente hein, pour un certain nombre de personnes. En plus, il y a cette histoire de retraite à 64 ans, mais de 43 ans de cotisation, ce qui fait que ça va amener un certain nombre de personnes, notamment les plus modestes, notamment les gens qui travaillent qui ont eu des carrières pénibles, à partir sans avoir le taux plein. Hein. Je pense que finalement, cette possibilité qui sera offerte de partir à la retraite plus tôt en raison de pénibilité, à mon avis, ça va être à la marge. Hein. Ça va être très restreint, je pense.
Aujourd'hui, selon les sondages, près de 70% des Français sont opposés à cette réforme des retraites. Et 65% d'entre eux soutiennent la mobilisation à venir. Alors, il faut le dire, pour les syndicats, il existe d'autres voies pour pérenniser notre système de retraite. L'augmentation des salaires, la baisse du temps de travail, des créations d'emplois et revenir sur les exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises. Alors, si vous êtes contre cette réforme des retraites, rendez-vous ce jeudi 19 janvier dans la rue. C'était un reportage de Dilatebi à la réalisation Sylvain Richard. Toute l'équipe attend vos messages, vos réactions sur le site de là-bas.
Là-bas, si j'y suis.